Sage, partenaire des entrepreneurs pour la gestion au quotidien de leur activité, vous propose ce podcast.
Activité partielle, un deuxième train de mesures par ordonnance. En complément du décret du 25 mars 2020, le gouvernement vient de prendre une nouvelle série de mesures par ordonnance pour renforcer le dispositif d'activité partielle, dit aussi chômage partiel, durant la crise sanitaire liée au coronavirus. Certaines des dispositions doivent être précisées par décret. D'autres mériteraient d'être clarifiées. Des mesures temporaires. Les mesures prévues par l'ordonnance n'ont, en principe, pas vocation à avoir une durée pérenne. Elles sont applicables à compter du 28 mars 2020, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Salariés relevant de régime d'équivalence. Rappel. Dans certains secteurs déterminés par décret ou accord de branche étendu, la durée du travail effectif et la rémunération sont fixées en référence à une durée dite d'équivalence, exemple, 39H. Dans ces secteurs, c'est la durée d'équivalence qui sert de seuil déclenchement pour les heures supplémentaires, et non la durée légale du travail. Les heures d'équivalence, à savoir celles comprises entre la durée légale du travail, 35H, et la durée d'équivalence applicable, exemple, 39H, sont rémunérées conformément aux conventions ou accords collectifs ou, à défaut, aux usages applicables. Activité partielle. En cas de chômage partiel, la règle de principe veut que seules les heures de travail perdues sous la durée légale, 35H, sont en principe indemnisables. Traditionnellement, l'administration en déduisait que les heures d'équivalence perdues n'étaient pas indemnisables au titre de l'activité partielle. Pour aider les entreprises concernées à faire face à la crise, l'ordonnance prévoit de rendre les heures d'équivalence rémunérées indemnisables au titre de l'activité partielle. L'employeur devra verser les indemnités d'activité partielle correspondantes aux salariés, il recevra en remboursement l'allocation d'activité partielle. Exemple, un salarié soumis à une durée d'équivalence de 39H rémunéré voit sa durée du travail ramenée à 20H en raison d'une période de chômage partiel. Dans le système antérieur à l'ordonnance, il n'était indemnisé que pour 15H, 35-20. Dans le cadre de l'ordonnance, 19H sont, à notre sens, indemnisables, 39-20. Corrélativement, l'employeur peut recourir à l'activité partielle s'il réduit la durée d'équivalence, sans pour autant descendre sous la durée légale, exemple, pour des personnels soumis à une durée d'équivalence de 41H, l'employeur ramène la durée du travail à 37, les 4H sont indemnisables. Extension de la règle de la rémunération mensuelle minimale aux salariés à temps partiel. En cas d'activité partielle, le salarié reçoit pour chaque heure indemnisable une indemnité de 70% de la rémunération horaire brute de référence. Selon le ministère, dans le cas général, cette somme représente environ 84% du net correspondant, compte tenu du différentiel de cotisation et contribution entre le salaire et le revenu de remplacement. Pour protéger les salariés au SMIC ou proche du SMIC, le mécanisme de la rémunération mensuelle minimale, RMM, prévoit que l'employeur doit, si nécessaire, verser une allocation complémentaire pour garantir aux salariés qu'au total, éventuelle rémunération d'activité conservée, indemnité d'activité partielle et allocation RMM cumulée, il est au moins le SMIC net des cotisations obligatoires correspondant à la durée légale sur le mois, 151,67H. Exemple, si on prend l'exemple d'un salarié à temps plein, 151,67H, payé 11 € en activité partielle tout le mois, il reçoit 1167,86 € d'indemnité d'activité partielle. La RMM, soit le SMIC net sur le mois, représente dans le cas général 1217,91 €. L'employeur doit donc lui verser une allocation complémentaire de 1217,91 € moins 1167,86 € égale 50,05 €, soit 33 € par heure indemnisée. Néanmoins, la règle de la RMM comporte une restriction de taille, elle ne bénéficie qu'aux salariés à temps plein. Par conséquent, un salarié à temps partiel n'a donc pas droit à cette garantie, même rapportée à sa durée du travail. Pour remédier à cette difficulté, l'ordonnance prévoit que l'indemnité d'activité partielle que l'employeur doit verser à un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure au taux horaire du SMIC. Elle ajoute que si le taux horaire de rémunération d'un salarié à temps partiel est inférieur au SMIC, son indemnité d'activité partielle est égale à son taux horaire. Cette précision peut surprendre, mais peut-être vise-t-elle le cas de jeunes de moins de 18 ans n'ayant pas 6 mois d'expérience dans la branche, possibilité d'un abattement de 10% ou 20% selon l'âge ou de certains contrats de professionnalisation à temps partiel. En revanche, on notera que l'ordonnance se contente de faire référence au SMIC sans préciser s'il s'agit d'un montant brut ou d'un montant net de cotisation obligatoire. Si c'est un montant brut qui devait être retenu, Cela pourrait mathématiquement aboutir à ce que le salarié est plus en net pendant la période d'activité partielle, compte tenu du différentiel de charges sociales entre salaire et indemnité. À cet égard, on rappellera que l'objectif affiché de la mesure est d'étendre temporairement le mécanisme de la RMM et la garantie du SMIC net aux salariés à temps partiel. C'est sans doute à l'aune de cet objectif qu'il faut la lire. En tout état de cause, les précisions de l'administration seront les bienvenues pour éclairer la lecture de ce point de l'ordonnance. Apprenti et contrat de professionnalisation. Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'ordonnance prévoit que le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle est égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au terme du Code du travail. Là aussi, la lecture de l'ordonnance n'est pas des plus aisées. Il serait curieux d'appliquer cette règle à la lettre à des apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation qui auraient des rémunérations brutes supérieures au barème minimum légal en pourcentage du SMIC. Ce n'est certes pas la situation la plus fréquente, mais ce n'est pas non plus une hypothèse d'école. Si cela leur est plus favorable, il pourrait sembler logique de leur appliquer la règle de droit commun de l'activité partielle, à savoir une indemnité égale à 70% de la rémunération horaire brute de référence. Autre différence de taille entre les deux contrats, le régime des cotisations salariales, qui font que le même brut ne donne pas le même net. Pour les apprentis, exonération de CSG-CRDS sur le salaire et, dans la limite de 79% du SMIC, exonération des cotisations d'origine légale et conventionnelle. Pour les contrats de professionnalisation, assujettissement aux cotisations salariales dans les conditions de droit commun, soit un peu moins de 21% de cotisations salariales. À la lettre, un salarié en contrat de professionnalisation rémunéré en pourcentage du SMIC aurait mathématiquement un net supérieur en activité partielle à celui perçu en période normale, compte tenu du différentiel de charges sociales entre le salaire et les indemnités d'activité partielle. Les précisions de l'administration seraient donc les bienvenues, afin d'établir une interprétation de référence. Il n'est pas interdit de penser qu'il s'agit ici de créer, en réalité, une sorte de rémunération mensuelle minimale pour les apprentis et contrats de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC. Salarié en formation. En principe, l'employeur doit verser une indemnité horaire d'activité partielle majorée, égale à 100% de la rémunération nette antérieure si le salarié suit, pendant les heures chômées, des actions de formation réalisées notamment dans le cadre du plan de développement des compétences. L'ordonnance suspend cette règle pour les formations accordées par l'employeur après le 28 mars 2020. Les intéressés seront donc indemnisés dans les conditions de droit commun, indemnité de 70% du taux horaire de référence, application de la RMM s'il y a lieu, etc. Les salariés protégés perdent leur droit de refus. En principe, la mise en activité partielle ne peut pas être imposée à un salarié protégé, représentant du personnel, délégué syndical, etc. En cas de refus, l'employeur doit verser au salarié concerné la partie de salaire qu'il a perdue du fait de l'activité partielle. Pour éviter cette situation pendant la période de crise sanitaire, l'ordonnance dispose que la mise en activité partielle s'impose aux salariés protégés, sans que les employeurs aient à recueillir leur accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé. Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours. Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, le public visé n'est pas cité mais on pense en particulier au forfait jour, l'ordonnance prévoit que la détermination du nombre d'heures indemnisables sera effectuée en convertissant un nombre de jours ou de demi-journées, selon des modalités à fixer par décret. Les règles méritent en effet d'être précisées, en particulier lorsque la période d'activité partielle prend la forme d'une réduction de l'horaire de l'établissement. Pour mémoire, les salariés en forfait en jours sur l'année ont maintenant droit à l'activité partielle dans cette hypothèse. En cas d'activité partielle sous forme de fermeture d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les intéressés étaient déjà éligibles à l'activité partielle. La note technique annexée à l'instruction GEF de 2013 précisait que, dans cette hypothèse, chaque journée de fermeture valait s'étacher chaque demi-journée 3h30. Le décret à paraître devrait préciser les règles de référence. Salariés qui ne sont pas soumis à la durée du travail. Certains salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. L'ordonnance ne cite pas d'exemple concret, mais on peut par exemple penser ici au VRP, au pigiste, ou, qui sait, au cadre dirigeant. Ils vont a priori pouvoir bénéficier de l'activité partielle, dans des conditions à fixer par décret. Sur ce point, tout dépendra du texte à paraître. Le décret, ou la GEF par la suite, préciseront sans doute les publics concernés. Salariés d'entreprises étrangères sans établissement en France. L'ordonnance ouvre le bénéfice du dispositif d'activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement en France et qui emploient au moins un salarié travaillant sur le territoire national. Le bénéfice de l'activité partielle est ouvert aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et à l'obligation d'affiliation à l'assurance chômage. Régime social temporaire des indemnités d'activité partielle. La loi d'urgence sanitaire a habilité le gouvernement à simplifier par voie d'ordonnance le régime social des indemnités d'activité partielle. Indemnités d'activité partielle réglementaire. L'ordonnance prévoit que par dérogation aux dispositions du 4e mois du 2 de l'article L136-1-2 et du 3 de l'article L136-8 du Code de la Sécurité sociale, les indemnités d'activité partielle sont assujetties à la contribution prévue à l'article L136-1 du Code de la Sécurité sociale auto-mentionné au 1er mois du 2 de l'article L136-8 du même Code. Ce faisant, l'ordonnance met entre parenthèses les dispositifs d'exonération de CSG-CRDS et de taux réduit de CSG liés au revenu fiscal de référence, normalement applicable. La CSG due sur les indemnités d'activité partielle se calcule donc au taux de 6,20% et la CRDS au taux de 0,5%, après abattement d'assiette de 1,75%, quel que soit le revenu fiscal de référence du bénéficiaire. Reste la règle dite d'écrêtement, selon laquelle le prélèvement de la CSG-CRDS ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant net cumulé des indemnités d'activité partielle et de la rémunération d'activité en dessous du SMIC brut. Si nécessaire, ce mécanisme peut conduire à ne pas prélever la CSG-CRDS, ou à ne prélever ses contributions que partiellement, d'où l'expression écrêtement. La dérogation posée par l'ordonnance visant sans réserve le 4e mois du 2 de l'article L136-1-2, on pourrait comprendre en première approche que l'écrêtement est également suspendu temporairement. Mais ce ne serait pas, à notre sens, cohérent avec la règle de la rémunération mensuelle minimale, qui garantit le SMIC net aux salariés au SMIC ou proche du SMIC. Selon nos informations, la règle d'écrêtement demeure donc applicable. En attendant les précisions de l'administration, on notera à cet égard que le site internet du réseau des URSSAF faisait état du maintien de cette règle, le 30 mars 2020 en fin de journée, dans son information relative au dispositif exceptionnel d'activité partielle. Indemnité complémentaire versée par les employeurs. Par ailleurs, l'ordonnance précise noir sur blanc que les indemnités complémentaires, versées par les employeurs en complément des indemnités obligatoires d'activité partielle, exemple, taux de 80% au lieu de 70%, suivent le même régime social. Elles sont donc exonérées de cotisations, mais soumises à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 6,2% et 0,50%, après abattement d'assiette de 1,75%, et s'il y a lieu écrêtement. Ce régime de faveur s'applique aux indemnités complémentaires versées en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Ce faisant, l'ordonnance clarifie au moins temporairement le régime social de ces indemnités complémentaires, qui faisait débat. Attention. Cette précision visant des indemnités complémentaires, rien ne dit que ce régime social de faveur soit valable pour des sommes qui seraient versées en compensation d'heures non indemnisables au titre de l'activité partielle, exemple, heures supplémentaires structurelles chômées. Autre mesure signalée. Entreprise publique. L'ordonnance ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux entreprises publiques qui s'assurent elles-mêmes contre le risque de chômage et aux salariés de la branche des industries électriques et gazières, IEG. Régie gérant des remontées mécaniques ou des pistes de ski. L'ordonnance ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de 3 ans par la loi Montagne de 2016. Particuliers employeurs et assistants maternels. Sans rentrer dans les détails de ces dispositifs, on signalera que l'ordonnance permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d'un dispositif d'activité partielle spécifique.
Accompagnez la gestion de votre capital humain avec les solutions Sage Business Cloud. En savoir plus sur sage.fr.